Crédit Immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous jusqu'à 9h, temps universel. L'antenne est à vous. Dans 30 minutes, nous ouvrirons le débat. Le Paris Saint-Germain est sur le toit du football européen. Après avoir remporté sa première victoire en Ligue des Champions face à l'Inter Milan 5-0 samedi soir à Munich, le plus gros écart jamais enregistré en finale lors de cette compétition. Cette victoire a fait vibrer les fans du Paris Saint-Germain, notamment sur le continent africain. Alors comment avez-vous vécu cette finale? A-t-elle été à la hauteur de vos attentes? Que pensez-vous de la victoire parisienne? Vos réactions, vos analyses, vos points de vue nous intéressent. Le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Je lirai également les très nombreuses réactions que vous nous avez envoyées via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Mais d'abord, votre rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec vos questions auxquelles répondent les journalistes de la rédaction. On débute avec Moïse. Bonjour Moïse. Moïse, m'entendez-vous? Alors, nous avons quelques problèmes de connexion avec Moïse qui nous appelle de Kinshasa et qui avait des questions au sujet du retour de l'ex-président congolais Joseph Kabila dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Moïse est en ligne. Est-ce que Moïse m'entend?
Oui, je vous entends bien. Bonjour, Namoury Dosso, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Merci d'être avec nous, Moïse. Alors, comme je le disais, vous aviez des questions relatives au retour de l'ancien président congolais. Moïse, on écoute votre toute première question.
Ok, ma toute première question est la suivante. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila mène des consultations à Goma. Pourquoi avoir choisi cette ville contrôlée par les rebelles de l'AFC-M23?
Alors Moïse, pour vous répondre très concrètement et très précisément, nous avons fait appel à Patient Ligodi, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour Patient.
Bonjour Namoury.
Alors Moïse souhaitait savoir pourquoi avoir choisi cette ville pour le retour de Joseph Kabila?
Alors les réponses, on va déjà les chercher dans les discours de Joseph Kabila. D'abord, il considère que c'est un symbole fort dans le contexte sécuritaire. Dans ses prises de parole, Joseph Kabila fait référence à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, le Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, et en choisissant de passer par Goma, il dit vouloir montrer sa solidarité avec les habitants de cette région durement touchée par les conflits. C'est aussi un geste de réaffirmation de l'unité nationale, disent les proches de Joseph Kabila. D'ailleurs, dans ses prises de parole, l'ancien chef de l'État rappelle que le Congo appartient à tous les Congolais, ceux qui sont à Goma et ceux qui sont à Kinshasa. Toujours selon son équipe, son passage par Goma doit donc être vu comme un appel à la cohésion nationale en se rendant dans une zone souvent marginalisée et fragilisée par la guerre. On peut aussi noter que c'est un message politique et stratégique. Kabila dénonce ce qu'il appelle l'isolement imposé à cette région par le pouvoir en place, notamment par la déconnexion des institutions financières locales. On sait que le banque ne fonctionne pas depuis la prise de cette ville par l'AFC-M23. En passant par Goma, son équipe explique aussi que Kabila veut marquer un contraste avec le pouvoir central et en affichant donc une volonté de réintégrer cette partie du pays dans le débat national et de relancer le dialogue. Mais on sait aussi que Joseph Kabila n'a jamais rompu le contact avec Corneille Nangaï qui sont toujours en contact.
Alors Moïse, vous aviez une deuxième question.
Oui, ma deuxième question est la suivante. Pourquoi a-t-il voulu rencontrer les chefs religieux?
Alors c'est vrai que Joseph Kabila a consulté ces derniers jours. Pour quelles raisons ces réunions, pour quelles raisons ces consultations avec les forces vives à Goma?
Déjà qu'il a rencontré plusieurs catégories, il y a notamment les représentants des confessions religieuses, vous l'avez dit, qui lui ont demandé d'assumer un rôle plutôt d'arbitre pour le retour de la paix. Il a aussi rencontré les autorités traditionnelles du Nord Kivu qui ont évoqué notamment le retour des déplacés. Il y a aussi les chefs d'établissement d'enseignement supérieur et les responsables d'institutions hospitalières qui ont été rencontré, mais on a aussi le fait qu'il ait rencontré les associations féminines du Nord Kivu, mais aussi le week-end dernier, les autorités, les responsables de l'AFCM23. Dans toutes ces rencontres, on peut entrevoir notamment certains discours. On voit qu'il est contre les deals miniers entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Il ferait monter certains discours, notamment des déplacés, pour marquer qu'il y a véritablement un problème qui nécessite de la volonté, qui nécessite un dialogue plutôt qu'un affrontement militaire.
Enfin, Moïse, votre dernière question.
Ok, la dernière question est la suivante. Met-il en péril les discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC M23?
Patient Ligodi vous répond.
Oui, sa présence à Goma met bel et bien en péril les discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, selon certaines analyses. On sait que l'AFC M23 avait déjà saisi la médiation, donc Doha, pour dire qu'il faut des mesures de confiance qui doivent être mises en place, et le fait pour Kinshasa d'imposer ou de prendre des mesures contre Joseph Kabila ne contribue pas à l'affirmation de ces mesures de confiance. Donc parmi ces mesures de confiance, on sait qu'il y a environ 700 personnes qui sont arrêtées, qui sont affiliées à l'AFC M23, que l'AFC demande que ces gens soient libérés, et le fait que l'immunité de Joseph Kabila ait été, on va dire, levée, le fait qu'il y a d'autres mesures qui vont être prises contre Kabila, évidemment, ça complique les discussions, mais on va également dire que, comme je l'ai rappelé tantôt, que Kabila est contre les deals entre Kinshasa et les États-Unis dans le cadre de ces commerces des minerais, et tout ça, ça va remettre une fois de plus des discussions au point de départ pour, on va dire, essayer de pouvoir avancer rapidement, mais ça demandera une plus grande implication du médiateur, mais aussi de tous les facilitateurs.
Moïse, êtes-vous satisfait par les réponses apportées par Patient Ligodi?
Oui, très satisfait, oui.
Eh bien Moïse, nous vous souhaitons une excellente journée à Kinshasa, la capitale de la RDC. On salue au passage tous nos auditeurs qui nous écoutent en RDC. Un grand merci également à Patient Ligodi, journaliste au service Afrique de RFI, pour son éclairage. Nous accueillons désormais Crépin, qui nous appelle de Ando Kekrenou, dans une localité située dans le centre de la Côte d'Ivoire. Crépin, soyez le bienvenu. Alors Crépin, on a un petit problème de liaison, je vous entends très très mal, hein. Alors on va tenter de régler ça en régie. Crépin, vous avez des interrogations qui portent sur le nouveau président de la BAD, la Banque africaine de développement. Crépin, est-ce qu'on vous entend mieux ? Alors Crépin, malheureusement la ligne se dégrade, hein. Nous allons faire passer un autre auditeur en ligne le temps de régler cette situation et nous reviendrons vers vous dans quelques instants. Alors, ça va être le moment pour nous d'accueillir l'Amabank qui nous appelle de Montréal au Canada où il est actuellement 4h18. L'Amabank est donc très matinale. Bonjour l'Amabank.
Bonjour Namori Donjou, bonjour aux auditeurs guinéens de la RFI, une pensée positive à M. Alioba, le président du Modèle.
Alors justement, nous en parlerons dans quelques minutes de la situation de l'opposant guinéen, mais vous nous appelez, Crépin, notamment justement pour savoir ce qui se passe en ce qui concerne cet opposant qui a été condamné il y a la semaine dernière à 2 ans de prison pour offense et diffamation à l'encontre du président Mamadi Doumbouya. À l'ouverture de son procès en appel fin mars, Alioba avait plaidé non coupable. Cette condamnation a été vivement dénoncée par l'opposition guinéenne et les défenseurs des droits humains. L'Amabank, pour répondre à vos questions, nous sommes en direct de Conakry avec notre correspondant Tanguy Bihan. Bonjour Tanguy.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Tanguy, l'Amabank a une toute première question pour vous. L'Amabank, vous avez la parole.
Merci. En Guinée, l'opposant Alioba du mouvement démocratique libéral a été condamné à 2 ans de prison ferme en appel. Les avocats disent qu'il n'y a pas de base légale à sa condamnation. Je ne comprends pas quelles sont donc les preuves sur lesquelles les juges se sont basés en appel.
Alors, pour essayer d'éclairer tout ceci, Tanguy Bihan vous répond.
Alors, je vais peut-être commencer par resituer Alioba sur la scène politique guinéenne et puis rappeler les faits. Alioba est un jeune leader d'une quarantaine d'années qui a émergé politiquement, en particulier après le coup d'État du 5 septembre 2021, et le départ en exil des grands leaders politiques qui occupaient le devant de la scène depuis plusieurs décennies. Je parle de l'ancien président Alpha Condé et des anciens premiers ministres Sélou d'Alain Diallo et Sidya Touré. Alioba n'a cessé de répéter que, contrairement à eux, il souhaitait rester en Guinée et ne pas partir en exil malgré les menaces dont il disait faire l'objet. Il avait même porté plainte contre X début de décembre 2024 en disant être menacé de kidnapping. C'était quelques jours à peine après la disparition du journaliste Habib Marwan Camara. Alioba a été arrêté fin décembre, puis condamné en première instance début janvier pour offense et diffamation envers le chef de l'État, et cela pour avoir invité les chefs religieux à s'exprimer sur les disparitions des activistes Fonike Menge et Bill Loba. C'était lors d'une réunion publique de son parti, le modèle diffusé sur Internet. Les juges ont donc estimé que cette sortie constituait une offense et une diffamation envers Mamadi Doumbouya et l'ont condamné à 2 ans de prison ferme. Et lors du procès en appel, les juges n'ont fait que confirmer la décision prise en première instance.
Alors Tanguy, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les avocats contestent cette condamnation ?
Alors, les avocats d'Alioba estiment que ses droits ont été violés. Ils estiment que son arrestation à la frontière sierra-léonaise constitue une violation de sa liberté d'aller et venir et que la détention qui s'en est suivie avant son procès était elle aussi illégale. Selon eux, l'arrestation et la détention étaient arbitraires. Ensuite, dans le fond, les avocats estiment que leur client n'a pas dépassé les limites de la liberté d'expression dans sa prise de parole. C'est sur cette base qu'ils ont attaqué l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO en janvier, dans la foulée de la condamnation de leur client. Ils demandent à cette cour d'ordonner à l'État guinéen de le libérer. J'ajoute que les avocats d'Alioba ne sont pas les seuls à avoir critiqué la décision de la justice guinéenne. Amnesty International l'a dénoncé et l'Union européenne a déclaré en être, je cite, « préoccupée ». L'Union européenne a d'ailleurs tenu à ajouter que, je cite encore, « la liberté d'expression et le pluralisme politique sont des éléments fondamentaux pour une transition inclusive et pacifiée ».
Alors l'Amabank, qui nous appelle de Montréal, a une deuxième question. À vous, l'Amabank.
Bien, est-ce qu'il y a encore des recours possibles ?
Tanguy Bihan.
Alors il y a, comme je viens de le dire, la procédure en cours devant la Cour de justice de la CEDEAO. Les plaidoiries ont déjà eu lieu il y a 2 semaines, mais on ne sait pas encore quand sera rendu le verdict. Au niveau des juridictions guinéennes, Alioba et ses avocats envisagent de saisir la Cour suprême pour contester le verdict rendu en appel, mais ils n'ont pas encore annoncé leur décision.
L'Amabank, ces réponses sont-elles satisfaisantes pour vous ?
Je suis très très satisfait et une forte pensée à tous les séquestrés politiques vivant en Guinée et se trouvant aussi en exil.
Eh bien, merci à vous, l'Amabank. On vous salue, on vous souhaite une excellente journée à Montréal. On salue également Tanguy Bihan, correspondant de RFI à Conakry. Il est actuellement 8h22 en Côte d'Ivoire où l'on retrouve Crépin qui nous appelle de Ando Kekrenou, une localité dans le centre du pays. Crépin, est-ce que vous nous entendez désormais ?
Bonjour Namoru Dessau, je vous entends très bien.
Soyez le bienvenu Crépin, je le disais, vos interrogations portent sur le nouveau président de la BAD, de la Banque africaine de développement. Crépin, on écoute votre première question.
Ok, merci Namoru Dessau. Ma question est la suivante. Le Mauritanien Sidi Ouata a été élu président de la Banque africaine de développement pour un mandat de 5 ans. Qui est-il ?
Alors,
et quel a été son parcours ?
Alors, pour savoir qui il est et quel a été son parcours, nous avons sollicité Julien Clémenceau, chef du service économie de RFI, qui est avec nous en studio. Bonjour Julien.
Bonjour Namori.
Alors Crépin tente d'en savoir plus sur le nouveau président de la BAD. Qui est Sidi Ouata ?
Merci pour votre question Crépin. Ben, c'est vrai que sa notoriété n'est pas très forte hors de son pays, mais les Mauritaniens le connaissent parce qu'il a été ministre pendant 7 ans. Sidi Ouata est né dans le sud de la Mauritanie, dans une famille d'enseignants. Il a fait ses études en France. Il a soutenu une thèse d'économie à l'université de Nice. Après avoir été conseiller du président de la Banque islamique de développement au début des années 2000, il rentre en Mauritanie et occupe plusieurs postes de conseiller à la présidence et à la primature. Et c'est à ce moment-là qu'il est repéré par le président Sidi Oucher Abdallahi. On lui confie en 2008 le ministère de l'économie, un portefeuille qu'il conserve après le coup d'État de Mohamed Ould Abdelaziz. Discret, on lui reconnaît une certaine efficacité pour assurer les grands équilibres, réduire l'inflation, reconstituer les réserves de change. Et en 2015, il est approché pour devenir président de la Banque arabe pour le développement en Afrique. Il y siégeait déjà comme représentant de la Mauritanie et donc il décide de sauter le pas. Cette institution végète, elle a été créée par les pays arabes après la crise pétrolière de 1973. Et avec le soutien des fonds du Golfe, Sidi Ouata va peu à peu la moderniser. En 10 ans, il obtient des résultats. Les approbations de financement sont multipliées par 12 et les décaissements par 8.
Alors Julien, quelles sont les grandes lignes de son programme?
Alors Sidi Oulta les résume en 4 points. D'abord, augmenter la capacité de la BAD à mobiliser des fonds. Directement, par exemple, en émettant de la dette qui va être considérée comme du capital. Pour faire simple, plus le capital est important, plus vous pouvez emprunter. Et c'est ce qu'a commencé à faire l'équipe sortante. Et puis indirectement, pour Sidi Oulta, un dollar dépensé doit agir comme 10. On parle d'effet de levier. Quand la banque investit dans un projet, cela met par exemple en confiance le secteur privé et le pousse souvent à participer à son tour. Il veut aussi replacer la BAD comme chef de file des institutions financières africaines. C'est vrai que ces dernières années, d'autres se sont distingués, comme Afreximbank par exemple. Et les actions des uns et des autres n'étaient sans doute pas assez coordonnées. Pour Sidi Oulta, cette fragmentation affaiblit le continent. Autre point important pour lui, transformer le boom démographique en boom économique. Une population jeune et nombreuse, c'est plus de bras et de cerveaux pour travailler. Sur le papier, cela paraît évident, mais c'est un vrai défi, car ça veut dire plus d'investissements dans l'éducation, la santé ou encore le logement. Et puis ça aussi, c'est pas nouveau. Sidi Oulta veut financer la construction des infrastructures dont l'Afrique a besoin, des routes, des solutions numériques, des centrales, des réseaux électriques, en intégrant la contrainte du changement climatique.
Crépan, écoute votre dernière question.
Ok. Que peut-on attendre de sa stratégie de financement au développement?
Julien Clémenceau vous répond.
Alors on en a un peu parlé. Il explique vouloir augmenter la capacité d'emprunt de la banque et aussi mieux utiliser l'effet de levier des fonds investis. Cela passe par des innovations financières, mais ça veut dire aussi mieux travailler avec les banques africaines et les assurances qui captent l'épargne locale. L'enjeu, ce sera aussi d'augmenter les contributions des partenaires de la banque dans un contexte difficile de baisse mondiale de l'aide au développement et de potentiel retrait des États-Unis. La candidature de Sidi Oulta a été vendue aux États africains avec la promesse d'attirer davantage de fonds du Golfe. Le Mauritanien les connaît très bien. Est-ce qu'il arrivera à les convaincre d'augmenter leurs investissements? C'est autre chose, mais cela fait sens pour des pays qui doivent diversifier leurs économies et qui ont fait de leur rôle de pivot entre l'Asie et l'Afrique un atout.
Crépin, avons-nous convenablement répondu à vos interrogations? Nous avons manifestement perdu Crépin, la ligne s'est dégradée. En tout cas, Crépin, merci de nous avoir appelé au sujet de cette nomination, de cette élection à la BAD, la Banque africaine de développement. On remercie également Julien Clémenceau pour son éclairage. Enfin, nous allons terminer avec Banam qui nous appelle de Lomé. Bonjour Banam.
Bonjour Namou Doussou et bonjour RFI.
Alors Banam, vous avez des questions au sujet de la guerre en Ukraine et vos questions portent notamment sur le chancelier allemand Friedrich Merz qui s'est engagé mercredi dernier à Idé Kiev à produire à la fois en Ukraine et en Allemagne des missiles à longue portée. Pour vous répondre, nous sommes en studio avec Ksenia Jornolkei, journaliste à la rédaction ukrainienne de RFI. Bonjour Ksenia.
Bonjour.
Banam, on écoute votre première question.
Merci. Les principaux pays alliés de Kiev lèvent les dernières restrictions sur la portée des armes livrées à l'Ukraine. Comment expliquer cette nouvelle décision?
Ksenia Jornolkei vous répond.
Alors, cette décision intervient dans un contexte de plus en plus tendu, tant sur le plan militaire que politique. L'Ukraine subit actuellement des frappes russes massives, notamment sur les régions de Sumy et Kiev. Et la Russie continue de progresser sur le terrain. Face à l'impasse diplomatique, comme on a pu le constater récemment en Turquie, et à l'échec des tentatives de cesser le feu, Moscou rejette systématiquement les propositions de dialogue, qu'elles viennent de l'Ukraine, des États-Unis ou notamment de l'Europe. Il devient clair que la Russie ne cherche pas à négocier pour l'instant. Elle gagne de temps pour avancer et occuper davantage de territoire. C'est pour ça qu'il est devenu essentiel d'aider l'Ukraine à mieux se défendre. Et en plus, ce geste, cette décision était aussi symbolique. Elle confirme l'engagement de l'Europe et de l'Occident dans l'aide militaire en continu.
Alors, Ksenia, en quelques mots pour conclure, qu'est-ce qu'implique ce changement de doctrine de la part des alliés de l'Ukraine ?
Concrètement, ça change beaucoup de choses pour l'armée ukrainienne et ça c'est le plus important. Elle pourra désormais utiliser les missiles à longue portée comme les Storm Shadow franco-britanniques pour atteindre des cibles jusqu'à 300 km à l'intérieur du territoire russe. Et cela permet aussi à l'Ukraine de désorganiser la logistique militaire de Moscou, voire anticiper certaines attaques. Mais attention, ça ne garantit pas qu'il y aura un renversement immédiat de la situation militaire. Néanmoins, cela donne à Kiev une nouvelle utile stratégique.
Banam, merci de nous avoir appelés. Nous allons devoir conclure cette première partie. On remercie également Xenia Jornolke pour ses explications. Restez avec nous juste après le journal Afrique. Nous ouvrirons le débat d'appel sur l'actualité consacré à la victoire du Paris Saint-Germain. Une victoire historique en Ligue des Champions. 5-0 contre l'Inter Milan. C'était samedi à Munich en Allemagne. Comment avez-vous vécu cette finale? Le Paris Saint-Germain méritait-il ce titre? On en parle dans quelques minutes.